gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans la lettre que Paul a écrite aux Philippiens. Dans cette lettre, Paul s'adresse aux Philippiens qui sont des gens qui avaient été éprouvés, certains avaient été persécutés, chassés, et dans cet état des lieux, Paul est en train de les encourager. Il parle des combats qui ne sont pas toujours facile, mais remporté en Jésus-Christ. Et il met en avant le fait que si on perd pour gagner Christ, si on perd sa vie humaine ici, ici-bas, pour gagner Christ, alors on entre dans une communion particulière avec Dieu, l'excellence de la connaissance de Christ qui nous amène à être réellement libres. Et lui, il est en train de mettre en avant cette joie extraordinaire qu'il ressent, qu'il vit. Pourtant, il est passé par des moments difficiles. Vous qui êtes éprouvés, vous qui avez été persécutés, si seulement vous pouviez être renouvelés dans cette joie des rachetés. Qui ici n'a jamais eu de combat? Je crois qu'on en a tous et on en a tous eu. Mais dans ce combat, Paul, il désire emmener les Philippiens à gagner. Et pour gagner dans le combat, c'est gagner Christ d'abord. Cette expression extraordinaire. La joie du racheté, une force extraordinaire. Lorsque notre joie n'est pas forcément liée, n'est pas du tout même, je dirais, liée uniquement aux choses qui sont sur la terre. La réussite d'un examen, une promotion. Oui, certes, une bénédiction qui nous fait du bien et qui nous rend heureux, mais la joie du racheté, la joie d'être racheté, la joie d'avoir été racheté, doit être nettement au-dessus. Ce qui fait que c'est vrai, dans le chagrin, on peut quand même être heureux. Ce paradoxe étonnant, mais que le chrétien vit et expérimente, parce qu'il a cette joie d'être racheté, et que la joie des choses du monde n'est que peu à côté de la joie du ciel, la joie de l'espérance. Et Paul est en train de la mettre en avant. Si vous regardez au chapitre 2, verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Philippiens 2, alors verset 28, regardez. « Il a reçu Épaphrodite, son compagnon d'œuvre. Il l'a envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin qu'il se réjouisse de le recevoir. » Verset 29, « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. » 2, verset 18, « Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Vous avez été éprouvé, je suis éprouvé, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. » Chapitre 3, verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Chapitre 4, verset 1er, c'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Cette parole a d'autant plus de crédibilité que dans quel contexte Paul est en train d'écrire cette lettre? Paul est à Rome, il est en prison. Il est dans les chaînes quand il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous toujours. Il est dans les chaînes, on lui a mis les fers, mais il est réellement libre. Parce que sa joie est parfaite en Christ. La joie du racheté. Et eux qui sont aussi éprouvés, qui sont persécutés, qui passent par des combats, il les encourage aussi à être remplis de cette joie. Cette joie ineffable, cette joie que le monde ne peut éteindre, quand bien même l'ennemi viendrait avec son seau d'eau pour enlever le feu, il ne pourra pas l'éteindre. Parce que c'est une joie intense qui brûle dans notre cœur. La joie même de ceux qui sont persécutés, mais comment peuvent-ils être aussi heureux? Nous avons reçu l'année dernière, en pastoral, un pasteur, Monsieur Salmaloné, qui venait d'Inde, et dans cet état d'Orissa, ils ont été persécutés. Mais ce qui m'a frappé, bien sûr, son discours et tout ce qu'il a porté comme témoignage, qui ne pouvait être pour nous que vivifiant, mais c'est aussi un détail important, c'est que le sourire sur son visage ne l'a pas lâché, et ne le lâchait pas. Vous aviez beau le voir la veille, le jour même, le lendemain, Il ne pouvait pas ne pas sourire. Il était rempli de la joie du Seigneur. Et pourtant, quand il vous racontait les épreuves et les persécutions par lesquelles il passait, il y avait de quoi dire le pauvre. Mais en fait, non, ce n'était pas le pauvre. Nous voyons réellement là un homme qui était rempli du Saint-Esprit, des chrétiens qui vivaient la joie des rachetés, qui marchaient, et quand bien même il y avait les difficultés, et quand bien même aujourd'hui on voudrait leur mettre les fers aux pieds ou aux mains, ils sont libres. Quand bien même on voudrait les emprisonner, ils sont réellement libres, parce qu'ils sont libres en Jésus-Christ. Et quelque part, à contrario, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, mais comment peut-être l'inverse est-il possible aujourd'hui dans notre monde occidental, où nous semblons tellement libres, libres de circuler à droite à gauche, non emprisonnés, libres d'acheter tout, mais esclaves du matérialisme, libres de nous payer tout ce dont nous avons besoin pour notre confort, mais bien esclaves des choses de la terre, à tel point que ce qui fait notre joie, c'est bien plus souvent une promotion, un bonheur terrestre, quelque chose qui est éphémère, plutôt que la joie du ciel. Et c'est alors que dès qu'il y a l'épreuve, la joie s'effondre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Dans le Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 15, il est donné une parole qui résume quand même tout un contexte où Dieu fait un reproche au peuple d'Israël. « Mon peuple est devenu gras, replé, repu. Il a abandonné son Dieu et méprisé le rocher de son salut. » Peut-être que ce reproche pourrait prophétiquement venir aujourd'hui à l'église, où parfois nous sommes tellement bien dans notre confort, tellement repus et gras de notre confort, que nous avons oublié de gagner Christ. L'argent peut nous permettre de gagner et obtenir une maison, mais ne nous permettra jamais d'obtenir un foyer. L'argent te donnera un lit, mais ne te donnera jamais le sommeil. L'argent te donnera d'acheter une horloge, mais tu ne pourras jamais acheter le temps. L'argent te donnera de payer le médecin, mais te donnera jamais d'acheter la santé. L'argent ne te donnera effectivement d'acheter une maison, mais jamais de construire un foyer. Ce que Dieu voudrait ce matin, c'est nous dire perdre notre vie ici-bas pour gagner Christ. Peuple, écoute, voilà ce que Paul dit aux Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît, verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Et Paul dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car c'est salutaire, c'est hautement important. Et peut-être nous pourrions nous dire ce matin, c'est vrai, j'ai déjà entendu plusieurs fois tel passage, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai peut-être médité, j'ai déjà entendu plusieurs fois la même prédication ou le même thème apporté, mais qu'en ai-je fait? Je ne me lasse pas de vous le répéter, dit Paul. Et il nous répète les choses. Dieu, parfois, est obligé de se répéter parce qu'on le fait se répéter.
en fait qu'il doit se répéter afin que nous comprenions bien. Paul est bien conscient, d'ailleurs, nous l'avons lu tout à l'heure aussi quand il dit « Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous ». Et il est en prison, rappelez-vous, mais il est tellement libre, il a tout perdu sur la terre pour gagner Christ. Ça ne veut pas dire que demain il faut quitter votre travail, que demain il faut vendre votre maison, mais il faut être prêt à obéir à Dieu et à tout regarder comme une perte, surtout ce qui pourrait nous enorgueillir sur notre terre. Notre telle capacité, talent, qualité humaine, ce n'est pas ce qui fera la gloire de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans l'homme. C'est pourquoi Paul dira d'ailleurs, rendons un culte par l'Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu est parfois obligé de se répéter quand nous n'écoutons pas? Ayant des oreilles, ils n'entendent pas quand nous n'écoutons pas. Dernièrement, cela m'est arrivé quelquefois, Marilyn, mon épouse, me parlait, j'écoutais, jusqu'à un moment donné où mes pensées ont divagué. Elle a dû le sentir. Tu m'écoutes? Tu as bien compris? Oui, mais je veux bien que tu répètes. Mais je me dis, combien de fois ne faisons pas la même chose avec Dieu? J'ai entendu, mais je n'ai pas bien écouté. Et Dieu est obligé de se répéter. Pouvons-nous ce matin remobiliser nos cœurs et nos oreilles spirituelles? Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Je veux être à l'écoute et mettre en pratique. Quand est-ce que nous n'entendons pas? Quand est-ce que Dieu est obligé de se répéter? Quand nous n'obéissons pas. Ou parfois, peut-être, nous enchaînons les messages après les messages, dimanche après dimanche, mardi après mardi, jeudi après jeudi, pour ceux qui viennent aussi en semaine. Nous enchaînons. Peut-être sommes-nous parfois capables de dire « c'était bien ». Mais le comportement n'a pas changé. L'attitude n'a pas changé. La vie de famille n'a pas changé. La vie du couple n'a pas changé. Ma situation personnelle n'a pas changé. Or Dieu, ce qu'il désire, c'est que nous mettions en pratique sa parole. Une seule parole mise en pratique vaut mieux que 10 000 non mises en pratique. Et c'est cela que Dieu veut nous dire. Un jour, un pasteur, il en a eu l'audace, rassurez-vous, j'en aurai pas l'audace, à moins que Dieu me le demande vraiment. Ce pasteur, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Un jour, bon, il disait qu'il a été particulièrement dirigé par Dieu lors d'un message, un dimanche matin, il l'a apporté. Et toute l'assemblée a été émue. Il y a eu vraiment l'onction du Saint-Esprit, comme peut-être plusieurs l'ont déjà vécu. Et beaucoup sont venus lui dire « j'ai été touché, c'était pour moi ». Ça m'a encouragé, je vais me remobiliser, etc. Et puis le dimanche d'après matin, le pasteur arrive, il prend le même message et il prêche. Alors, les frères et sœurs, bon, peut-être qu'il a oublié qu'il avait fait le dimanche précédent. Bon, de toute façon, c'est un bon message. Et puis le troisième dimanche d'après, le pasteur reprend le même message. Alors là, ça a commencé un petit peu à en gêner quelques-uns qui sont allés le voir. Et puis, il leur a dit, écoutez, le Seigneur m'a donné une seule parole. Alors que je n'arrivais pas à trouver de message suivant, je priais, je me tenais devant Dieu, et le Seigneur me réorientait toujours vers le même message. J'ai dit, mais Seigneur, je ne peux quand même pas apporter 3 fois la même chose. Et le Seigneur m'a dit, quand ils commenceront à mettre en pratique, tu pourras changer et avancer. Et je crois que l'important, ce n'est pas d'entendre un beau message, ce n'est pas de dire, c'était bien. Ce n'est même pas de dire « on s'est fait du bien », mais c'est qu'il y a un changement, un bouleversement dans nos cœurs et dans nos vies. Quand bien même nous mettrions seulement une seule petite parole que Jésus nous a donnée en pratique, vous ne croyez pas que beaucoup de choses changeraient? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Ô Seigneur, si seulement ce commandement était là dans mon cœur, gravé et mis en pratique, est-ce que des choses ne changeraient pas? Seigneur, parfois nous entendons, mais nous n'obéissons pas. Pardonne-nous, c'est peut-être notre orgueil qui est là. Un jour, un homme racontait que dans une contrée où il y avait une vallée et des bourrasques de vent particulières, c'était je crois en Arizona, il raconte qu'il y avait toute une rangée d'arbres courbés et puis tout un côté de la vallée où il n'y avait plus rien. Plus d'arbres, plus de végétation. Alors c'était un reportage et lorsqu'on lui a posé la question, il a expliqué que le vent soufflait à une telle force que tous les arbres secs ne résistaient pas. Ceux qui ont le cou raide, la nuque raide, ne résistent pas à la tempête. Ils cassent,
ils se brisent. Mais tous les arbres qui portaient du fruit, le vent soufflait, ils se courbaient, mais ils ne tombaient pas. Les racines étaient profondes. Mais tout le côté de la vallée qui était sec, les arbres avaient beau pousser et faire 20 mètres de haut, ils se brisaient net. Seigneur, viens briser mon orgueil qui m'empêche de réagir et qui m'amène à trouver tout un tas d'excuses ou de justifications personnelles. Tu veux me parler, je veux perdre ma vie pour gagner Christ. C'est comme cela que je serai libre. Prends garde, dit le Seigneur. Nous l'avons lu. Paul dit, réjouissez-vous. Prenez garde aux chiens, aux ouvriers, aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Tiens, prenons garde, c'est vrai, à tous ceux qui sont impurs, qui vivent dans le péché pourtant, qui d'apparence sembleraient servir Dieu. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit, d'abord nettoie l'intérieur de la coupe. C'est ce qu'il y a de plus important. La vraie circoncision, c'est celle du cœur. Prenons garde, effectivement, à tous ceux qui servent Dieu, mais qui ne servent pas comme Dieu le veut. Parce qu'on peut servir et ne pas obéir. Or, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Mais l'obéissance vaut mieux que tous les services et tous les sacrifices. Mais j'aimerais dire, voilà, prends garde, prenez garde. Prenez garde, dit Paul. Prenez garde à ceux. Mais est-ce que ces personnes qui sont compris dans les « ceux » ne sont pas parfois nous-mêmes? Ne devons-nous pas en premier lieu prendre garde à nous-mêmes? Prendre garde à ne pas chercher le salut par nos œuvres, par la loi. Prendre garde à ne pas avoir une apparence et un extérieur tout propre, alors que l'intérieur de la coupe n'est pas nettoyé. La parole de Dieu se révèle comme un miroir devant nos cœurs. Alors lorsqu'on prend la parole, et pas qu'on lit, mais qu'on médite, elle devient un miroir. Et tout à coup, elle me montre ce qu'il y a dans mon cœur. C'est peut-être à moi d'abord où je dois faire attention à ne pas faire partie de ces catégories de personnes, mais que mon cœur soit réellement circoncis. Une circoncision du cœur. Alors je pourrais, comme il dit, c'est la suite, nous l'avons lu, rendre gloire à Dieu par l'Esprit. Un culte d'adoration, un culte qui lui rend gloire. Est-ce que ce culte ce matin rend gloire à Dieu? Amen. Apparemment, pas trop le croit. Est-ce que ce culte rend gloire à Dieu? Amen. Connaissez-vous le pasteur Jean-Paul Salvador, qui est à Montauban? Voilà, il avance en âge maintenant. Et je pense à lui parce qu'un jour, quelqu'un est venu le voir pour lui demander les horaires du culte. Et il lui a dit, à quelle heure le culte commence et à quelle heure le culte se termine? Et Monsieur Salvador lui a répondu, ah, vous savez, pour moi, le culte a commencé il y a 48 ans. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté. Et je crois qu'il avait raison. Le culte ne doit pas s'arrêter. Rendre à Dieu un culte, c'est tous les jours, c'est maintenant, mais c'est ce soir. C'est à chaque instant. C'est une vie réelle devant lui. Rendre gloire à Dieu, c'est tout lui donner. Vous ne croyez pas qu'on a des qualités où parfois on se trouve bien? Nous devons les regarder comme une perte. Afin que Dieu se glorifie, pour gagner Christ. Un jour, une personne, c'était une jeune femme, était remplie du Saint-Esprit, et elle témoignait, ne serait-ce que par de son attitude. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur, et une de ces personnes à qui elle a témoigné est venue la voir, et lui a demandé, « Mais c'est merveilleux tout ce que Dieu vous a donné. » Et elle a répondu, « Écoutez, tout ce que vous voyez de bon et de merveilleux en moi, je l'ai reçu du Seigneur, gratuitement, comme un présent que j'ai accepté avec reconnaissance. Mais tout me vient de lui et je n'aurais jamais pu m'offrir tous ces présents si précieux à cause de ma pauvreté. » Paul dit, oui, certains se confient en la chair, se confient dans leur talent personnel pour faire l'œuvre de Dieu. Mais moi, je vous dis Paul, je serai le premier. Je pourrais être le premier à me glorifier. Je serai le premier, mais tout cela, je le regarde comme une perte, comme de la boue, toute chose. Je regarde comme de la boue. Rappelez-vous, Paul avait été docteur de la loi, docteur en théologie. Paul était un homme instruit, Paul était un homme de compétence, Paul était un homme de qualité. Mais pourtant, il a accepté de renoncer à toute sa culture, à sa religion, à l'héritage religieux de ses parents, de sa mère. Il a accepté de renoncer même à son héritage culturel et d'origine, puisqu'il était de la tribu de Benjamin. Or, rappelez-vous, Benjamin, c'était le préféré de son père. Et quelle bénédiction il avait reçue. Paul aurait pu dire et mettre en avant toutes ses qualités.
le premier. Oui, il dit « j'étais le premier selon la loi, mais aussi le premier des pécheurs ». Et à cause de cette humilité, et qu'il a tout considéré comme une perte, Dieu en a fait le premier des apôtres. Parce qu'il a su gagner Christ, nul ne peut servir de maître à la fois. C'est Jésus qui le dit, dans l'évangile de Matthieu. J'ai la référence, mais si vous la voulez, lisez tout l'évangile. Si tu veux servir Dieu, renonce à tout en esprit, afin que tu sois réellement libre. Nous l'avons lu. J'ai considéré tout cela comme de la boue. J'ai renoncé à tout. Renoncer à tout, c'est déjà en esprit. Je suis prêt à tout abandonner si tu me le demandes. Je suis prêt à changer de voie si tu me le demandes. Je suis prêt à m'engager dans un service particulier si tu me le demandes. Je suis prêt à tout laisser pour toi, pour gagner Christ. Gagner Christ. Les hommes cherchent à gagner. Les hommes cherchent à gagner des trophées. Les hommes cherchent à gagner des titres, que ce soit dans la philosophie, l'écriture, la littérature, le sport, tous ces athlètes. Et bien sûr, il y a des vertus dans les athlètes, mais ils cherchent à gagner des titres humains, des gloires personnelles. Les hommes cherchent à gagner, gagner, gagner. Ce verbe gagner qui revient lorsque nous regardons toute cette multitude qui est prise par le gain de l'argent. On cherche à gagner de l'argent au loto, on cherche à gagner à droite, on cherche à gagner des richesses, on cherche à gagner l'estime, on cherche à gagner la faveur. Mais Jésus a bien dit dans Marc 8, 36, que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire s'il perd sa vie, ça veut dire s'il n'est pas sauvé. Que sert-il à cet homme-là? Et dans ce contexte-là, Jésus a dit, mais celui qui veut me suivre, il faut d'abord qu'il perde sa vie, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix, de sa croix, pardon, pas de la croix, de sa croix, et qu'il me suive. Et pourquoi Jésus a dit cela? Parce qu'à un moment donné, Pierre est arrivé, tout fort, tout vaillant. Oh non, tu ne vas pas aller à la croix, non, tu ne vas pas subir ces douleurs. Arrière de moi, Satan, a dit Jésus. Non pas parce que Pierre était Satan, non pas parce que Pierre était possédé par Satan, non, mais parce que les pensées de Pierre, là, n'étaient pas inspirées par l'Esprit de Dieu, mais par l'esprit du monde. C'était Satan qui lui avait susurré cela à l'oreille. La pensée de vouloir ne pas souffrir, ne pas accomplir sa mission, c'était la mission de Christ. Et c'est là qu'il dit, mais celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Chercher à gagner Christ en nous, ça veut dire chercher à ce que son caractère se forme en moi, à ce que toute la nature du Seigneur se forme en nous. Chercher à être comme lui et à ce que mon comportement, mon attitude, mes paroles, mes pensées soient imprégnées de celles de Christ. Nous avons chanté des cantiques merveilleux. Je vous pose une question. Je vous demande, s'il vous plaît, de répondre. Y a-t-il une personne qui a eu plus d'amour sur la terre que Christ? Y a-t-il une personne qui a eu plus de compassion que Christ? Y a-t-il une personne qui a eu plus de bonté que Christ? Qui peut être comme Jésus? Personne. N'est-il pas le modèle parfait? Alors, ne devons-nous pas gagner Christ? Qu'il demeure en nous. Jean chapitre 15, verset 4, c'est tout un passage où Jésus nous invite à demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. Je suis le sel, vous êtes les sarments. Demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Mais si vous demeurez en moi, Jésus ne veut pas faire une petite visite. Mes frères et sœurs, combien de fois on demande à Dieu de nous visiter et de faire une petite visite? J'ai toute la journée, mais là, tiens, je m'arrête juste pour une petite visite. Non, Jésus veut demeurer. Et demeurer, ça veut dire être attaché. D'ailleurs, il y a un cantique qu'on chante souvent qui est merveilleux, attaché au divin cep ou au divin cep attaché. Je me souviens plus de l'ordre des paroles. Enfin, ça veut dire la même chose. Au divin cep attaché, il y a une constante. Si vous demeurez en moi, vous serez réellement libre. Et c'est dans ce contexte que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais demeurez en Christ. Être en lui, gagner Christ. Je veux que mes sentiments soient les tiens. Je veux plutôt que tout ton caractère soit manifesté en moi. Il faut que tu croisses et que je diminue. Et Paul pouvait dire aux Galates que le monde avait été crucifié pour lui et lui pour le monde. Il regarde toutes ses qualités comme une perte afin de gagner Christ.
Vous avez déjà vu comment est un cep, comment est le sarment. Mais dites-moi, le sarment peut-il produire du fruit? Le fruit peut-il venir du sarment? Le fruit ne peut pas venir du sarment. Il ne peut venir que du cep. Alors, pour que le sarment porte du fruit, il faut qu'il soit automatiquement attaché au cep. Si, mon frère, ma sœur, sarment que tu es, sarment que nous sommes, nous croyons que nous pouvons porter du fruit par nous-mêmes, nous nous trompons. Nous ne pouvons porter du fruit que si nous sommes attachés au Seigneur, que si nous demeurons en lui, afin que la sève coule et que le fruit soit porté. Méfions-nous de nos raisonnements, méfions-nous de nos qualités humaines, méfions-nous de notre orgueil, méfions-nous de nos talents personnels qui voudraient prendre la place de ce que Dieu veut faire en nous. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est quelque chose, c'est Christ en nous et c'est son esprit qui nous conduit. Je regarde ces choses comme une perte à cause de Christ. À cause de ce que Jésus a fait pour moi, à cause de son immense amour, de son sacrifice crucifié, mais aussi du fait qu'il soit ressuscité, comme notre frère nous l'a dit. Pouvons-nous un seul instant, lorsque nous pensons à la croix, ne pas être bouleversés et éblouis par ce que Jésus a fait? Les gouttes de sang qui ont précédé des coulées de sang quand il est allé à la croix ont été pour nous le moyen de voir le voile se déchirer. Le sang de Christ a déchiré le voile, mais j'aimerais vous rappeler que le cœur de Dieu a été déchiré quand le voile a été déchiré, parce que Dieu a détourné son regard de Jésus. C'était pour qu'aujourd'hui on puisse demeurer en lui. C'était justement pour qu'aujourd'hui on accède à cette vie qu'on ne pouvait pas. C'était pour qu'aujourd'hui on puisse dire « Je veux gagner Christ ». Je veux gagner le caractère de Christ. Je veux demeurer en lui et lui en moi. Je veux que ses paroles soient en moi, au divin cep attaché. Alors il dit, je regarde tout comme une perte pour gagner Christ. Et il le répète, et je le redis encore, il ne se répète pas pour se répéter. C'est parce que c'est hautement important. Et il dit, cette fois, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur. Jésus-Christ n'était pas seulement le Seigneur, Jésus-Christ était son Seigneur. Et ça, c'est une réflexion que nous pouvons nous faire. Frères et sœurs, est-ce que Jésus est Seigneur? Oui, Jésus est Seigneur, mais est-ce qu'il est mon Seigneur? Est-ce qu'il règne dans ma vie, réellement? Et là, ce qu'il voulait dire en répétant, c'est je regarde chaque jour. J'ai regardé une fois pour toutes, quand je me suis détourné de mes mauvaises voies, je me suis engagé avec Jésus-Christ, j'ai cru en son sacrifice, j'ai cru en sa résurrection, j'ai demandé pardon, je me suis repenti, je suis tourné vers Dieu, j'ai regardé ces choses comme une perte pour gagner Christ. Et il dit, mais je les regarde encore, parce que chaque jour, il est capable de renouveler quelque part cette expérience, non pas de conversion, il est converti, mais cette expérience de se rapprocher de Dieu et de demeurer en lui. Je regarde ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Si vous étiez sur un bateau et qu'il tanguait à cause de la mer, de la tempête qui était là, quand bien même vous auriez de l'argent, de l'or, des diamants, des pierres précieuses, s'il y a vos enfants avec vous, ne jetteriez-vous pas tout cet or pour sauver la vie de votre enfant? Et je crois que les choses sur la terre sont éphémères, mais ce qui est quelque chose, c'est la vie et la vie éternelle. Ce qui est quelque chose, c'est notre relation spirituelle. Et c'est cela que nous devons regarder pour gagner Christ, l'excellence de la connaissance de Christ. Ce qui voulait dire qu'il a regardé toutes choses comme une perte à cause de la connaissance qui lui a été révélée de Christ. Connaître Christ. Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez Dieu et est-ce que vous êtes connu de lui? Rappelez-vous, ce n'est pas une question anodine, parce qu'à un moment donné, quand même l'une des prophéties les plus terribles du Nouveau Testament prononcée par Jésus lui-même sera « Je ne vous ai jamais connu ». Retirez-vous de moi. Mais Seigneur, on t'a connu, on était là, on prophétisait, on faisait, on était. Je ne vous ai jamais connu. Connaître Christ, connaître Jésus, demeurer en lui, c'est connaître sa voix, le son de sa voix. Lorsque de temps en temps,
part en visite ou en réunion le soir, que je ne vois pas y louer, mon épouse m'appelle. Nous parlons, partageons, et puis elle dit à Iloé, « Tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler. » Elle prend le téléphone et au son « Allô ?», elle me répond « Papa ». Pourtant, je ne lui ai pas dit que c'était moi. Mais elle connaît le son de ma voix. Juste « Allô ?» Est-ce que vous connaissez la voix de Jésus ? Est-ce que vous connaissez la voix de Dieu dans un moment de prière, dans une situation où on reconnaît que Dieu est en train de nous parler ? Connaître la voix de Dieu. N'est-ce pas biblique? Jean 10, 27. Jésus nous dit qu'il est le bon berger et que les brebis connaissent sa voix. Et c'est comme ça qu'elles le suivent et qu'elles ne se trompent pas. Mais vous savez, il y a dans le monde certaines personnes qui ne connaissent pas leur père. Elles vous diront, oui, j'ai un père biologique, mais je ne le connais pas. Vous savez, ce qui est important, c'est de le connaître lui. Ce n'est pas forcément de connaître par cœur des chants ou des versets, c'est de le connaître lui. Et de connaître ce qu'il désire, ce qu'il veut et ce qu'il nous dit. Si tu n'apprends pas à reconnaître sa voix, comment pourras-tu demeurer en lui? Apprendre à reconnaître le son de sa voix. Ça, c'est par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ah, si tu te bats pour te gagner, au lieu de le gagner, tu n'apprendras pas à reconnaître la voix de Dieu. Quand on est dans une situation particulière et que tout à coup, eh bien, on pêche, le mensonge. On a essayé de se sauver, de se gagner. Alors on a menti. Le Saint-Esprit ne vient-il pas vous dire « tu as menti » Mais si vous vous mettez à le faire taire une fois, il reviendra deux fois. Vous le faites taire deux fois, il reviendra une troisième fois. Vous le faites taire, mais un jour il ne reviendra plus. Vous aurez éteint votre conscience et vous aurez mené un mauvais combat au lieu de mener le bon combat de la foi. Laissez le Saint-Esprit nous montrer là où ça ne va pas. Et quand le Seigneur met le doigt sur un péché, sur un problème dans nos vies, être capable de le mettre en règle, de demander pardon et de changer. Mais si on le balaye d'une main, vous ne reconnaîtrez plus la voix du Saint-Esprit. Reconnaître la voix du Seigneur. Comme dans l'Ancien Testament, autrefois, vous savez tous ces passages qui nous parlent des sacrifices, où parfois, ils sont un petit peu rudes à comprendre. Il y avait le sacrificateur qui prenait ce couteau tranchant, qui allait à l'intérieur du corps de l'animal. Et plusieurs fois, dans certains passages particuliers, il faisait ressortir les entrailles. Il faut que ce qu'il y a à l'intérieur, par la parole de Dieu, par la lumière du Saint-Esprit, soit révélé à l'extérieur. Mis en lumière. Il faut que ce qui est caché dans nos cœurs soit mis à nu devant le Saint-Esprit. Vous apprendrez à reconnaître le son de la voix du Seigneur. Et lorsque on a tout mis en lumière, alors Dieu nous parle. Dieu nous pardonne. Dieu nous prend, Dieu nous encourage. Dieu nous fait miséricorde. Apprendre à reconnaître le Seigneur, c'est aussi prendre du temps avec lui. Peut-être il t'a donné rendez-vous, mais tu n'es pas souvent là au rendez-vous. Que diriez-vous si votre enfant ne venait pas au rendez-vous que vous lui avez donné? S'il n'était pas là au rendez-vous téléphonique que vous lui donnez, au rendez-vous de communication et que la communication était brisée? Si tu n'apprends pas à connaître ce que Dieu pense, alors tu ne pourras pas gagner Christ. Pour savoir ce que Dieu pense et ce que Dieu dit, pour savoir et connaître, avoir l'excellence de la connaissance de Christ, il faut connaître ce que Dieu dit et ce que Dieu pense. Connaître Dieu, ce n'est pas une conception où nous pouvons dire, voilà, moi je me fais une image de Dieu comme cela, donc je pense que Dieu doit penser comme ça. Non. Qu'est-ce que Dieu me dit? La parole de Dieu. C'est une chose excellente de connaître Christ, c'est au-dessus de tout. N'est-il pas vrai que lorsque vous connaissez quelqu'un, vous êtes capable de savoir ce qu'il pense sans même parfois qu'il vous parle? Un seul regard dans une situation, vous savez qu'il n'est pas d'accord parce que vous le connaissez. Et ça, c'est une histoire de complicité qui ne peut se nouer et grandir que dans une relation intime. Une relation d'amitié, une relation de confiance. Et si on ne passe pas de temps auprès du CEP pour être attaché à lui, on ne pourra pas avoir cette révélation de ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense, afin que nos yeux se soient éclairés sur la lumière, sur la parole de Dieu. une connaissance excellente. C'est une chose excellente que de connaître Christ. Excellente, à côté de la connaissance de tout ce qu'il y a dans le monde. Paul nous y encourage. Peut-être as-tu une connaissance superficielle. Vous savez, un petit bonjour le matin, où vous voyez peut-être 365 fois de l'année une personne, mais vous ne lui dites toujours que bonjour. Vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas? Et si on vous posait la question, vous diriez, je la connais, mais... Je la connais, mais quelque part, je ne la connais pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle pense. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle vit. Parce que vous ne connaissez pas ses décisions, ses choix. Vous ne la connaissez pas. Pensez-vous que Dieu est heureux lorsque, simplement, tous les matins, on lui fait un petit bonjour? Pour le connaître, il faut aller un petit peu plus loin. Croyez-vous que Dieu se réjouit lorsqu'on lui tourne le dos? Que feriez-vous si, tout à l'heure, vous me parlez, puis je vous tourne le dos et je m'en vais? Mais combien de fois Dieu nous a appelés? Et puis on était tellement pressés qu'on lui a parlé, mais on ne l'a pas laissé nous parler. Et on n'a pas écouté, on lui a tourné le dos, on est parti. Une connaissance superficielle de Dieu qui nous amène à bien des dérives. Et on ne comprend pas pourquoi on est dans l'épreuve et pourquoi on n'a pas cette joie du racheté, cette joie du salut. Mais nous ne demeurons pas au divin cep. Connaissance superficielle, connaissance partielle peut-être. Connaître tous les aspects de Dieu. Dieu n'est pas limité. Nous ne pouvons pas l'enfermer. Dieu est un Dieu de justice et Dieu est un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est le Dieu de puissance. Dieu est le Dieu de grâce. Dieu est le Dieu de délivrance. C'est extraordinaire. L'immensité de la grandeur de Dieu. Et ce matin, quelqu'un a peut-être besoin de découvrir Dieu, non pas sous un seul aspect, mais vraiment le découvrir en profondeur. Ceux du dehors connaissent peut-être une personne comme le chef d'entreprise, comme le professeur, selon sa fonction. Mais l'enfant, lui, il connaît le Père. Il est le seul à connaître le Père. Et il est le seul à connaître toutes les casquettes du Père. Et à le connaître sous toutes ses formes. Celui qui demeure au divin cep attaché, il est le seul à connaître Dieu, à avoir cette communion avec Jésus par le Saint-Esprit. Gagner Christ, être demeuré en Christ, connaître Dieu et gagner. Jean 17, Jésus nous dit, je suis dans le Père. Le Père est en moi. Nous sommes un. Les autres verront Christ en toi si tu gagnes Christ. Comment témoigner de quelqu'un que tu connais très mal? Si ton désir est d'être comme Christ, alors Dieu t'aidera à gagner Christ. Le gagner pour toi, gagner son caractère. La puissance de Dieu se manifestera en toi pour te transformer. Parce que la vie éternelle, dira Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Un jour, une femme était tombée sur ce verset de Malachie, chapitre 3, où il est dit, il s'assiera, il fondra, il purifiera l'or et l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Alors, ils pourront apporter un sacrifice agréable à Dieu. Et elle a essayé de se poser la question sur ce qu'était le fondeur, sur ce qu'était l'orfèvre, celui qui fond le métal. Et elle a pris rendez-vous avec un spécialiste qui lui a expliqué qu'il devait s'asseoir et être très attentif. Ses yeux se fixaient sur le métal et jamais il ne s'en éloignait parce qu'il fallait qu'il le travaille à la perfection. Mais il lui explique qu'à un moment donné, il doit de suite s'arrêter car... Si le métal reste trop longtemps, il faut tout recommencer. Un instant de silence et de pause, elle lui posa la question. Mais alors comment faites-vous pour savoir que c'est le moment de s'arrêter et que l'objet précieux est tout prêt? Ça y est, il est là. Et il a répondu, ce n'est pas si compliqué. C'est au moment où je commence à voir mon visage qui est reflété dans le métal. Quelle image de Dieu qui travaille notre cœur, afin que nous reflétions son image, son caractère, afin que nous portions du fruit. Gagnez Christ. Regardez tout comme de la boue, La boue, ça avait le symbole, les exprimements même d'animaux. Et Paul n'a pas considéré ses talents, il s'est donné tout entièrement à Christ. Il y a peut-être encore tellement d'attaches que nous avons. Nous considérons tellement trop et hautement les choses de la terre. Nous sommes trop loin encore de ce que Dieu voudrait nous faire vivre, à tel point que Paul en prison pouvait être si libre. Et répéter à chaque fois, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Non, je ne suis pas en prison, vous me voyez en prison? Mais non, regardez, les murs de la prison sont ouverts. Paul ne voyait pas la prison, Paul y voyait Dieu dans sa prison. Il était avec lui, il était plus libre que des gens qui étaient libres au dehors. Mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, si vous demeurez en Christ. Perdons ces choses de la terre. Soyons capables de tout perdre pour gagner Christ, c'est-à-dire de tout regarder comme finalement insignifiant à côté de l'excellence de la grâce de Christ et de la possibilité d'être comme lui, semblable à lui. Si ton désir est fortement ancré dans ton cœur d'être comme lui, alors le Seigneur peu à peu travaillera ton cœur. La question est peut-être là, avons-nous un tel désir? Parfois nos désirs se portent tellement sur les choses de la terre. Mais Dieu est là, il t'attend dans le secret, afin que tu apprennes à reconnaître le son de sa voix. Amen. Nous allons nous incliner, s'il vous plaît. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous t'adorons, Père, et nous te glorifions de tout notre cœur. Nous voulons réaliser que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce que nous désirons tous pour porter du fruit, pour être des lumières dans ce monde, c'est de gagner Christ. Aide-nous à renoncer à nos capacités personnelles, renoncer à nous-mêmes pour te suivre et gagner Christ. C'est là, pour nous, notre désir, l'excellence de la connaissance de Christ. Parfois, nous ne te connaissons pas assez, nous ne te connaissons pas en profondeur, nous ne connaissons pas ta parole comme nous devrions la connaître. Tels des enfants, nous voulons venir humblement et en même temps avec beaucoup de joie devant toi pour te demander de travailler nos cœurs, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous ne te fassions pas sans cesse répéter les choses, mais que dans nos cœurs il y ait un écho favorable qui produit un changement, afin que nous produisions du fruit digne de la repentance, et que nous soyons prêts à ce que ton esprit nous éclaire et mette en lumière ce qui n'est pas ta gloire, pour être comme toi, pour te ressembler, Père, Maître et Seigneur. À toi la gloire dans tout l'univers et pour l'éternité. Amen.